Chapitre 54. Vivant. Charcot avait d'abord recouvré la parole, puis le contrôle de ses mouvements, petit à petit, telle une marionnette en bois prenant vie. Les derniers fourmillements étaient encore perceptibles quand les médecins arrivèrent. L'inspecteur était désormais assis sur un brancard à l'arrière du véhicule de secours. Il refusait qu'on l'emmène à l'hôpital. « Je ne courrai pas à 100 mètres maintenant, mais tout va bien. J'ai toutes mes sensations, pas de nausées, rien, ça va. Arrêtez de gesticuler, laissez-nous au moins nous en assurer », répliqua le toubib qui prenait ses constantes. Les portes arrière de l'ambulance étaient ouvertes. Franck obtempéra et, pour patienter, se mit à observer les alentours. Des gyrophares silencieux éclairaient par intermittence un jardin à l'abandon et une vieille maison de ville, une dizaine de mètres en retrait. D'après ce qu'il avait entendu, on se trouvait à Marly-la-Ville, à une demi-heure de Paris, dans le Val-d'Oise. Plus loin, Serge discutait avec des hommes en uniforme, alors que d'autres allaient et venaient depuis la rue. Au bout de quelques minutes, son coéquipier jeta sa cigarette au sol et s'approcha.
« Tu devrais faire un tour à l'hosto, » dit-il. « On s'en sortira sans toi, tu sais. »« Je me sens bien. »« Tu te sens bien, ouais. » Il y a 20 minutes, t'étais dans un cercueil et pas très en forme, je te rappelle. »
Franck se perdit un instant dans ses pensées. Ça s'était joué à quelques secondes, en effet. Et ce qui ne faisait aucun doute, c'était qu'il serait dans un sale état ou mort si les équipes n'étaient pas intervenues.
« J'ai fait envoyer un technicien de l'IGI en urgence chez toi pour qu'il débarrasse ta poignée de cette merde, » l'informa Amandier. « Il faudrait pas qu'un de tes voisins se prenne une dose de poudre. »
Le médecin termina sa prise de sang et rangea les tubes dans une sacoche. Il indiqua à Charcot qu'il en avait fini, lui fit signer un refus de soins, en lui glissant quelques recommandations. Mieux valait qu'il évite de rester seul pendant 2 ou 3 heures. Au moindre symptôme ou malaise, il devait se rendre aux urgences ou contacter les secours. Le jeune inspecteur le remercia et descendit de l'ambulance. Le souffle du vent le frigorifia, et il croisa ses bras pour se protéger.
« Dites-moi que vous l'avez attrapé. Volatilisé. Ce n'est pas possible, elle était avec moi à la cave. Rien d'extraordinaire, je te rassure. » Il y avait une issue au fond qui donnait sur un autre escalier. Elle est sortie par le côté de la bâtisse et s'est probablement enfuie par les propriétés voisines. À pied, elle ne pourra pas aller loin. Les gars vont la choper.
Raconte-moi ce qui s'est passé, Serge. Comment vous avez su ? Ils avancèrent en direction de la maison qui était cernée par de hauts cyprès. Des collègues de la BRI fouinaient dans les alentours. D'autres encadraient 2 individus menottés. Des effectifs du commissariat local occupaient aussi les lieux.
« Dans ton malheur, t'as eu un sacré bol, » lança Amandier. « Je me suis rendu chez toi parce que je voulais te communiquer les conclusions du légiste au sujet de l'affaire des disparus. Je venais de me garer quand j'ai vu ces 2 salopards et la Beaucor embarquer une caisse dans leur camionnette. »
Franck observait le véhicule qu'il avait désormais sous les yeux. Un bahut de chantier gris sans vitre à l'arrière, muni d'une cloison séparant la cabine du reste de la fourgonnette.
« J'ai tout de suite pigé, mais ils ont redémarré et c'était inenvisageable d'intervenir seul avec toi entre leurs mains. » J'ai noté le numéro de plaque que j'ai immédiatement transmis par radio à l'état-major en sollicitant des renforts. J'ai pu les filer à distance jusqu'au périph' où je les ai perdus. Mais grâce à l'IMAT, on avait l'adresse et le nom de la proprio. Madelie Souffrant. C'est l'identité de notre sorcière. Elle porte bien son nom, cette garce.
Il se retourna et se laissa distraire quelques secondes par l'ambulance qui repartait, avant de reprendre sa marche.
Heureusement, il ne roulait pas vite. Il n'avait sûrement pas envie de se faire remarquer. On est arrivé à peine 10 minutes après eux. La suite, tu la connais. »
Charcot s'arrêta à son tour, le regard rivé au sol. Serge revint vers lui.
« Oh, ça va, petit ?»
Franck releva les yeux et les planta dans ceux de son coéquipier. Il se serra chaleureusement contre lui et lui tapa dans le dos.
« Merci, Serge. Sans toi, je te bile pas, à charge de revanche. Pas impossible que t'aies à me rendre l'appareil un jour. Viens, il faut que je te montre quelque chose à la cave. »
Ils entrèrent dans la maison. Amandier expliqua qu'il avait prévenu son Tucci qui ne tarderait pas à débarquer.
On dirait qu'elle vit seule dans cette baraque. J'ai collé ses 2 complices en garde à vue, ils sont pour nous. D'après leurs papiers, les mecs crèchent tous les 2 rue d'Oran, dans le quartier de la Goutte d'Or, et ont 20 berges, des Antillais.
Ils passèrent dans le salon, envahis de babioles mais propres.
Des masques tribaux ornaient les murs.
Ils ouvrirent une porte et descendirent 10 marches pour accéder à la cave. Les odeurs d'encens planaient encore, entêtantes. Les volailles piaillaient, à moitié déplumées. Charcot se figea devant son cercueil. Au-dessus, les canaris bondissaient toujours de perchoir en perchoir. Franck en dénombra 5. Lequel d'entre eux était le gardien de l'âme de Delphine Escrémieux? Serge longea la pièce par la droite, se faufila entre les tentures et arriva dans une salle plongée dans la pénombre. Le battant qui donnait sur l'autre escalier était là, Mais ce n'était pas tout. Le jeune inspecteur y découvrit également une courte chaîne scellée dans le mur, avec un anneau métallique à son extrémité, vraisemblablement destiné à entraver un poignet ou une cheville. À proximité, une assiette de nourriture crasseuse et des bouteilles d'eau vide. Amandier désigna dans l'angle opposé un tas de vêtements féminins, ainsi qu'un sac à main et un portefeuille.
« J'ai jeté un œil au portefeuille. Il s'agit de celui d'Hélène Lemaire. Ses vêtements sont les siens, Charcot. »
Franck ne dit rien. Il fixait les marques de griffures et les trous dans les joints entre les briques, autour de l'endroit où le pieu qui maintenait la chaîne était enfoncé. Hélène avait essayé de s'échapper.
« C'est ici qu'on l'a séquestrée, dans cette cave sordide, entre son enlèvement à Elbeuf et son meurtre à Saint-Forget, » reprit le vieux flic. « Une semaine à subir Dieu seul sait quoi, avant qu'on l'emmène là-bas et qu'on lui crame les organes génitaux au chalumeau. Comme si tout ça n'était pas encore assez. »
Il serra les poings contre son corps. C'était la seconde fois que Charcot le voyait dans cet état. Ses yeux lui sortaient des orbites et sa bouche tordue le faisait ressembler à un fou.
« On va retrouver cette ordure de Bocor. Je te garantis que les petits durs qu'on a chopés vont cracher tout ce qu'ils savent. Ouh putain, je te jure qu'ils se reconnaîtront même plus dans une glace s'ils jouent les malins. »
Il fit demi-tour d'un pas décidé, s'arrêta au niveau des toiles suspendues et se retourna vers son jeune collègue.
« J'ai oublié de te dire, mais tu t'es planté pour l'affaire des disparus. Le légiste est formel, tes ciseaux ne concordent pas. Ce n'est pas un urgentiste, petit. C'est un fantôme qu'on n'attrapera jamais. »